Bonsoir les amis, bienvenue aux amateurs de sport. Je suis excité, enfin le début de la finale de la NBA ce soir entre les Raptors et les Warriors de Golden State. On va les retrouver tout à l'heure en direct, Alexandre Tourigny qui participe à la diffusion des matchs au réseau des sports. Il est là comme reporter pendant et après les matchs, alors il va nous dire comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent à quelques heures du match numéro 1 de la finale. On va diviser ça en 4 temps ce soir, on va parler de baseball également, d'ailleurs dès le début de l'émission avec la rumeur entre guillemets qui a été sorti par le président de la RIO ce matin en entrevue avec Paul Arcand. On y revient dans un instant. Hockey, football avec Jean Saint-Onge qui était au match préparatoire des Alouettes contre les Argonauts aujourd'hui. Et soccer, ben en deux temps, mais là, il y a quelque chose qui vient pas assombrir. La belle victoire d'hier, la victoire de l'Impact contre Salt Lake City à domicile 2-1. Et on va entendre un commentaire d'Arcadio Marcoudi après le match d'hier qui flaire ce que vient de confirmer l'Impact aujourd'hui et ce que Vincent Destouches nous apprenait tout à l'heure également, c'est que Nacho Piatti sera absent pour une période de 2 à 3 mois d'activité, absent pour les 2 à 3 prochains mois. Écoutons Arcadio hier soir.
Arcadio, qu'est-ce qui se passe avec Nacho Piatti?
C'est délicat parce que moi, il y a déjà un peu plus d'un mois, j'avais eu des informations comme quoi, du côté de l'Impact, cette blessure au genou de Piatti, on avait commencé à penser à la possibilité de peut-être avoir recours à une procédure chirurgicale. Et ça me fait craindre le pire. Je doute qu'on voit Piatti sur cette séquence de 3 matchs. Je pense que l'Impact va jouer de prudence si on veut revoir Nacho sur le terrain en 2019.
Et il y a environ une heure, Vincent Destouches avait l'information que c'était fini pour les 2 à 3 prochains mois. Vincent sera avec nous plus tard à l'émission. À l'instant même, avant d'accueillir Alex Agostino, j'accueille Jérémy Filosa. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario.
Alors, dans un premier temps, cette nouvelle-là, Piatti, c'est sûr que l'Impact se débrouille sans lui, là, plus souvent qu'autrement depuis le début de l'année. Il reste que là, 2 à 3 mois, c'est quasi la saison complète, là.
Ouais, absolument. Puis on le sait au soccer, Mario, c'est toujours plus long qu'anticipé parce que à un moment donné, le gars, il commence à faire de la rééducation, puis là, il recommence à courir, mais ça prend des semaines avant qu'il retrouve son cardio, des semaines avant qu'il retrouve sa capacité de compétitionner contre des joueurs qui vont être à leur sommet à ce moment-là dans la saison. Écoute, je prends l'exemple de Carl Fisher, puis vous allez me dire, Carl Fisher puis Nacho Piatti, ça n'a rien à voir. Mais c'est la même chose l'année passée, on l'attendait. Finalement, il n'a jamais joué jusqu'à la fin de l'année. Malheureusement, il a été écarté du portrait, donc c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et là, ben l'Impact doit tout de suite commencer à préparer l'après-Nacho parce que, premièrement, si on veut consolider et demeurer dans la course aux séries éliminatoires, tu l'as mentionné, à court terme, ça peut fonctionner. À long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut faire des acquisitions dès cet été, des acquisitions qui vont commencer à paver la route pour l'après-Piatti parce que, écoute, on va se le dire comme il faut, là. C'est quand même... Je vais pas l'appeler une opportunité parce que c'est pas une opportunité, mais c'est quand même une fenêtre pour l'Impact de dire publiquement, écoutez, on va passer à d'autres choses après cette saison avec Nacho Piatti, et puis je pense que les amateurs vont avaler la pilule un peu plus facilement en voyant un gars de 34 ans qui, au moment où on se parle, souffre de ce type de blessure-là.
On va revenir sur la nouvelle Piatti et sur la performance d'hier un petit peu plus tard avec Vincent Destouches à l'émission, mais on te garde avec nous, Jérémy, pour commenter, discuter avec nous de ce qui est ressorti ce matin de l'entrevue qu'accordait Michel Labrecque, président directeur général du Parc olympique, qui avait refusé de nous accorder des entrevues récemment, qui finalement en a accordé une à Paul aujourd'hui, dans laquelle il a échappé ceci. Enfin, il parle d'une rumeur et on se demande s'il s'est échappé sur quelque chose de concret. Écoutons-le par rapport au baseball à Montréal en 2019.
Avez-vous eu des contacts avec ceux qui font la promotion du baseball à Montréal?
Officiel, non. Aucun.
Officiel ou...
Officiel non plus.
Zéro.
Zéro.
Ils ne vous ont pas appelé, vous n'ont pas appelé?
Je ne sais pas. Mais la rumeur persistante dans le microcosme des chroniqueurs, c'est que il y aurait une annonce cet automne pour le retour d'une équipe pour une 20aine de parties. Fait, comme au parc, on n'est pas nono à temps plein, mon vice-président finance a déjà commencé à travailler. On regarde les dates parce qu'il y a des dates, il y a d'autres promoteurs là, qui veulent bloquer des dates. Puis M. Bramfun, ce que j'ai compris dans les médias, a dit qu'on était des gens d'affaires puis qu'on trouverait une entente. Mais moi, je l'ai toujours dit. On est très heureux de recevoir le baseball. Ma gang a un peu de fierté, là, puis elle a un muscle que les cyclistes connaissent bien, qui est le muscle de la fierté. Puis donc, nous, on se dit, on veut recevoir le monde bien, puis en chic.
Donc, Michel Labrec, sur une nouvelle qui pourrait arriver en 2019, mais qui concerne la saison 2020, juste pour préciser le tir. Jérémy, c'est pas la première fois qu'on évoque que les Rays de Tampa Bay, sans qu'on les nomme, puissent venir jouer des matchs à l'extérieur de Tampa Bay et possiblement à Montréal. Il y avait une nouvelle, même dans la presse, il y a un certain temps, qui faisait allusion à un scénario de garde partagée des Rays. Ça avait fait réagir ici. Et là, c'est quand même drôle d'entendre Michel Labrec parler d'une rumeur et travailler sur des dates potentielles. Il y a 81, je veux dire, il y en a des dates sur lesquelles travailler. Je sais pas comment il est choisi, là.
Mais écoute, il y a quelques années, Mario, il m'avait donné le même type d'information. Je pense qu'à chaque année, étant donné que cette possibilité est dans l'air, on regarde un peu notre calendrier à savoir qu'est-ce qu'on pourrait offrir peut-être comme date de disponibilité au baseball majeur, mais il fallait pas que cette nouvelle-là est plus loin que cela. Parce que moi, j'ai même pas placé d'appel cet après-midi. Je me suis dit, écoute, c'est pas impossible. On a vu les expos qui, avant de déménager, sont allés jouer des matchs à Porto Rico. C'est une façon de mettre de la pression sur ces organisations-là qui ont de la difficulté à bâtir des stades et tout cela. Mais l'appel m'est venu tout seul cet après-midi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, « Hey, s'il te plaît, va en onde. » Puis dis-leur que ça tient pas debout. Il n'y a aucun plan pour jouer 20 matchs à Montréal la saison prochaine parce que les hommes d'affaires ne veulent pas que les gens se fassent des illusions. On veut pas leur donner de faux espoirs. Donc, on m'a demandé d'aller en onde et de dire ce qu'il en était par rapport à tout cela. Donc, il ne semble pas qu'au moment où on se parle, il ait véritablement de l'espoir pour qu'on puisse voir 20 matchs à Montréal la saison prochaine. Ceci dit, Mario, on sait jamais ce qui peut arriver. On voit ce qui se passe du côté de Tampa Bay présentement. Il y a quelque chose qui doit aboutir.
Et permets-moi, Jérémy, permets-moi aussi de dire que, bon, sans prêter d'intention à qui que ce soit, dans les gens qui disent, bon, va en onde puis dégonfle la balloune, eux autres aussi veulent contrôler l'information, là, d'une certaine façon.
Ben, écoute,
et peut-être qu'ils veulent garder le punch d'une annonce éventuelle ou quoi que ce soit.
Non, mais écoute, je leur ai clairement spécifié. J'espère que vous vous servez pas de moi pour faire passer un message que vous devez faire disparaître au nom du baseball majeur et on m'a juré que ce n'était pas le cas. Et la source, une des sources à qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est une source qui me donne des informations depuis quand même plusieurs années. Donc, j'ai tendance à la croire. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas la première fois que Michel Labrec fait des sorties. Écoute, la dernière fois, Mario, là, qu'on avait parlé de cette information-là spécifiquement, il y a un représentant de la RIO qui m'avait appelé pour me dire, écoute, est-ce que tu pourrais, revenir en arrière sur ton histoire? J'ai dit, écoute, c'est votre patron, c'est le vice-président qui le dit. Il dit, oui, je le sais, mais malheureusement, l'information, elle n'est pas bonne. Donc, j'ai plus tendance à me fier à ma source, malheureusement, qu'à Michel Labrec dans ce dossier-ci.
Ben, de toute façon, la grosse nouvelle, c'est pas d'avoir 20 matchs de saison régulière d'une équipe. La grosse nouvelle, ça va être d'avoir une équipe pour les 50 prochaines années et encore plus. C'est la nouvelle qu'on attend. Alors, Jérémy, en quelques secondes, si tu as quelque chose à ajouter avant que je me tourne du côté d'Alex.
Ben, tout simplement pour dire que du côté de Tampa, éventuellement, il y a quelque chose qui va devoir arriver, Mario. Ça peut pas rester comme ça éternellement. On le voit là cette semaine, des foules de 5 et 6 000 personnes pour voir un club qui aspire à gagner la Série mondiale cette année. En plus que là, la seule option viable qui est sur la table pour les Rays, c'est une construction de stade à Saint-Pete. Et comme le dit Stuart Sternberg, je ne pense pas pouvoir convaincre les autres propriétaires que c'est une bonne idée de faire construire un stade au même endroit. Donc, on est dans un point de non-retour pour les Rays. Donc, moi, je serais pas surpris qu'il y ait quand même une annonce cet automne. Mais au moment où on se parle, il y a absolument rien de vrai là-dedans, malheureusement.
Merci beaucoup, Jérémy. Une excellente soirée.
Salut.
Bye bye. Alex Agostino est maintenant avec nous. Alex, il est notre expert baseball, dépisteur à temps plein des Phillies de Philadelphie. D'ailleurs, très occupé ces temps-ci à quelques moments du repêchage. Bonsoir, Alex.
Bonsoir, Mario.
On a vécu ça à l'époque, les expos qui sont allés jouer des matchs à Porto Rico. Est-ce que tu as l'impression que c'est farfelu que quelqu'un, quelque part, envisage un tel scénario pour les Rays de Tampa Bay qui n'attire pas de très belles foules malgré une équipe hyper compétitive?
Moi, je suis très sceptique, Mario. Je l'étais là, lors de l'annonce au mois de février d'une quarantaine de parties garde partagée. Je vois pas comment que l'association des joueurs et le baseball majeur laisserait faire ça. Faut pas oublier que les expos, quand ils sont allés à Porto Rico, on était orphelins. C'était le baseball majeur qui était les propriétaires. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans aucune contrainte. Dans ce cas-ci, moi, personnellement, je pense que le baseball à Saint-Pétersbourg, comme il existe présentement, c'est fini. Tu peux plus jouer quand t'as une équipe qui te donne du bon baseball sur le terrain, un jeune gérant en Kevin Cash qui est bon, qui est dynamique, qui est intelligent, une organisation qui ont des jeunes leaders dans le baseball, que ce soit au niveau du dépistage, du développement, qui avec des petites places salariales te donne 90 victoires par année et tu ne peux pas attirer de foule, même si on nous dit partout que c'est le 10e plus gros marché de télé, que les gens écoutent mais ne veulent pas se rendre là. Ça peut plus continuer de même. Sternberg l'a dit, Jérémy l'a répété. Le baseball majeur ne dira pas oui à un stade là-bas. Maintenant, pour 20 parties, je l'ai dit tantôt, sceptique, mais je comprends que le baseball majeur, que le groupe à Bronfman veut nier le tout parce que tu n'annonceras pas ça au mois de juin, au mois de juillet. Cette annonce-là pourrait devenir officielle au mois d'octobre ou à la fin des séries mondiales. Tu veux pas brusquer personne à Tampa. Puis les propriétaires des Rays ont tout fait pour essayer d'attirer du monde. Puis là, ben, c'est une question de peut-être que les games des Jays de Toronto, les Blue Jays, lorsqu'ils jouent comme présentement, à Tampa, il y a 5-6 000 personnes. Ben, les Jays contre les Rays à Montréal au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ben, tu pourrais peut-être avoir 28 à 35 000, puis tu aurais une belle ambiance. Même les joueurs des Rays commencent par Rio à parler que tu sais, j'ai joué dans telle équipe, là, 2 ans, j'étais à Chicago, arrivé au terrain, puis 5 000. Veux pas, on est des professionnels. Oui, on va jouer, que ce soit devant 10 personnes ou devant 100 000, mais l'énergie n'est pas la même. Alors, c'est pour ça que je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Je t'écoute attentivement, Alex. Et donc, on parle beaucoup d'expansion, mais je tends à penser que c'est peut-être un scénario de relocalisation qui attend le dossier des Rays de Tampa Bay. Et est-ce qu'on pourrait être aussi audacieux que d'annoncer que l'équipe serait vendue ou en tout cas déménagée à Montréal avec des étapes préalables qui amèneraient d'abord une présentation de 20 matchs? Je pense qu'on pourrait annoncer 2 choses en une. Je sais que je spécule, mais est-ce que ça te semble une hypothèse plausible?
Ben, y a, tout est plausible, tout est sur la table parce que Sternberg a tout fait pour réussir dans la région de Tampa qui est Saint-Pete présentement, a tout fait pour tenter d'avoir un terrain à Tampa. Personne dans la région là-bas peut dire, comme que les gens de Miami peuvent dire que peuvent parler en mal de Samson et de Loria, personne ne peut dire que Sternberg n'a pas essayé. Alors, à ce moment-là, il y a une annonce qui pourrait être faite, évidemment. Ça, seul lui, le baseball majeur et le groupe à Bronfman seraient au courant présentement. Moi, je pense que ce que tu avances est possible, mais je pense qu'il y a encore plusieurs étapes encore à trouver de ce côté-là. Et souvent, les déménagements, c'est pas 2-3 heures d'avance qu'on annonce ça, là. T'sais, on se rappelle qu'on savait que Montréal était sur respirateur parce que baseball majeur était propriétaire. On a annoncé ça aux employés une semaine avant la fin de la dernière saison en 2004, même si on savait fort bien que l'équipe un jour ou l'autre s'en allait. C'est peut-être la même chose avec Tampa. Si Sternberg le trouve. Le gros obstacle là-dedans, Mario, c'est que le bail était en 2027. T'as beaucoup de pénalités. Sternberg, je suis pas sûr qu'il aurait le goût de perdre de l'argent puis de payer les pénalités, mais si le comté de Saint-Pétersbourg décide qu'ils veulent raser le stade, ils ont des plans pour bâtir une communauté alentour de là, avec stade ou pas de stade, ben peut-être à un certain moment donné, on peut s'entendre en homme d'affaires, dire, regarde, oui, on va vous laisser briser le bail, on sait qu'on a tout fait pour faire réussir ça ici, ça n'a pas marché. Puis les deux marchés de la Floride, présentement, 5-6 000 personnes par soir, 10 000 personnes, à Miami, ils ont peut-être raison, mais à Tampa, il n'y a aucune raison que les gens aient là, qu'ils n'aillent pas au parti, sauf le lieu. Et le nombre de personnes qui demeurent dans le coin de Saint-Pétersbourg, c'est pas une ville du baseball majeur, malheureusement.
En quelques secondes, si jamais c'est des Rays dont on hériterait éventuellement Montréal, on hérite d'une fichue de bonne équipe.
Ah, t'hérites d'une organisation qui est menée par les jeunes meneurs du baseball. Quand je parle de ça, c'est pas t'entends pas des noms comme T.O. Epstein, des vétérans, Jim, des David Dombrowski. T'entends des gars comme Matt Silverman, t'entends des Chain Bloom, des gens qui sont à l'avant-garde du baseball. Eux autres, c'est l'équipe qui ont des lanceurs qui lancent la première ou deuxième manche pour essayer de bien partir parce qu'ils lancent 100 000 à l'heure et le partant embarque en deuxième ou troisième. En anglais, on appelle ça le opener, là, parce que eux, ils n'ont pas la capacité de payer 30 millions par année pour un Bryce Harper ou un lanceur comme Justin Verlander. Sauf qu'ils développent des jeunes et quand ils tournent la roue, Mario, là, ils trouvent d'autres bons joueurs. Ils font
ça ressemble aux expos qu'on a connus.
Oui, sauf que quand il laisse aller des joueurs, il laisse aller au bon moment. Des fois, ça fait mal quand un gars a frappé 25-30 circuits, tu l'échanges ou tu laisses aller pour un plus jeune. Les expos, quand ils ont laissé aller leur gars en 94, on n'a rien eu en retour. Ça, c'était pas de l'avant-garde. Ça, c'était des salary dumps. C'est pas ça que les Rays font. Ils ont toujours une route de secours, que ce soit un jeune choix au repêchage, que ce soit un projet de réclamation, un gars dans le 3 qui fait le travail. Tu peux pas gagner 90 games dans le baseball majeur d'aujourd'hui puis battre avec les Yankees puis les Rays quand t'es tellement loin au niveau de la masse salariale. Alors, ils ont un système.
Alex, c'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup de tes commentaires et tes explications. À bientôt. On vient avec Jean Saint-Onge, les Alouettes jouaient ce matin.